Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonjour à ceux que je n'aurais pas salués. Je propose que nous ouvrions notre Bible dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le prophète Malachi, ou Malachi, comme vous voulez. Voilà. Alors, prophète Malachi, chapitre 4, je lirai simplement un verset qui va nous situer d'introduction à notre réflexion, et puis nous passerons à un autre passage du Nouveau Testament, alors là, dans l'Évangile. Alors, je crois que tout le monde le connaît, celui-ci, vous reconnaîtrez dans ces textes. Donc, Malachi, chapitre 4, verset 6. Il, Dieu, ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Permettez-moi, je relis. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est tout autant d'une bonne nouvelle, c'est que finalement, ça termine l'Ancien Testament. C'est les dernières paroles de l'Ancien Testament. Et je pense que c'est quand même un encouragement de savoir que si nous ne pouvons pas rien faire, eh bien, Dieu est capable de faire si nous voulons consentir à lui ouvrir notre cœur et lui donner accès, finalement, eh bien, à notre vie. Et c'est peut-être le problème de toujours, le problème récurrent, parce qu'il faut quand même mentionner ce qui est non pas seulement pénible, mais d'une grande douleur et d'une grande souffrance lorsqu'il y a séparation, incompréhension, division dans une famille. On assiste aujourd'hui et dans notre siècle à, bon, c'est un constat, hein, c'est pas seulement nous qui le disons, mais c'est généralisé, à ce que nous pourrions appeler la famille dysfonctionnelle, où il y a tant de peine. C'est finalement, eh bien, en quelque sorte, à la mesure de la société dans laquelle nous vivons. Et pourtant, Dieu fait cette promesse que c'est lui qui les ramènera, c'est pas nous les pères, les mères, les parents, mais c'est lui. Et c'est une promesse peut-être pour tous ceux qui vivent des peines et des chagrins dans l'Église, le lecteur de la Bible, le lecteur de l'Évangile, en sachant que il est capable de changer ce qui est véritablement la pierre d'achoppement, c'est-à-dire le cœur. Parce que c'est ça, c'est pas la pensée, c'est pas en effet d'autres raisons ou d'autres handicaps qui peuvent être là aussi, qui sont des raisons, mais c'est le cœur. Et Dieu est le maître des cœurs. Mais il ne peut être le maître que des cœurs dans la mesure où nous lui donnons notre cœur. Parce qu'autrement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors, nous allons maintenant aller au cœur et vous allez voir la correspondance qu'il y a entre cette promesse du prophète Malachi, dernier mot de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la loi. Maintenant, eh bien, nous allons ouvrir dans le Nouveau Testament, et ça, c'est la grâce. C'est la confirmation de ce que nous venons de lire il y a un instant. Alors, si je vous dis Luc, spontanément, sans regarder, Luc chapitre 15, vous pensez à quoi? Au fils prodigue. Eh bien, on va voir le fils prodigue. Vous l'avez jamais lu, peut-être, ce texte, non? Non, vous l'avez peut-être jamais entendu en prédication. Alors, on va y revenir. Le fils prodigue, le fils perdu, le fils égaré, chapitre 15, verset 11, et ça corrobore bien ces deux textes, vous allez voir, on va en sortir quelque chose ce matin, un encouragement, je suis pas là pour dire vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire, et puis vous avez fait des erreurs, etc. Moi je vous dis que même quand on fait des erreurs et que on a raté quelquefois des choses dont on s'aperçoit plus tard, eh bien Dieu est là pour nous aider. Dieu est le Dieu de la famille, il est le Dieu du couple, il veut que finalement l'amour règne, même s'il y a eu quelquefois, eh bien, des nuages sombres. Alors on va le lire, on va le reprendre. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim ?» Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva, il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et l'histoire continue avec le fils aîné. Un autre genre, une autre réaction, une autre vision. Il semblerait que le père retrouve l'un et il perd l'autre. C'est terrible une chose pareille. C'est terrible. Ça, c'est le cœur humain qui est comme ça. Vous remarquerez que dans ce paragraphe, et je n'ai pas fait la lecture du fils aîné parce que c'est pas tant lui qui va nous intéresser, c'est surtout le prodige. Mais plus que le prodige, il y a le mot père. Et ça, souvent on fait le commentaire des deux fils, l'un, l'autre, etc. Tous les prédicateurs se fixent, et c'est normal d'ailleurs. De toute façon, il y a un sens autour de cette humanité qui est perdue, et naturellement, on pourrait dire parabolisée par l'histoire de cette famille éclatée. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est que dans l'histoire du fils prodigue, dans le paragraphe complet, l'enfant perdu et le fils aîné, vous remarquerez, et vous le verrez chez vous, que dans ce paragraphe au complet, il y a 14 fois le mot père qui est inscrit, qui est mentionné. C'est curieux, hein? 14 fois, vous lirez, vous verrez, j'ai compté, hein, vous me faites confiance. Hein. Si vous avez une calculette, eh bien, refaites le compte. Mais toujours est-il que 14 fois, souvent on a parlé de l'un et de l'autre, des enfants de ce pauvre père, mais on a oublié souvent de parler du père, ou sinon pour dire qu'il a eu compassion et puis il l'a accueilli. Et ça, c'est intéressant à prendre en compte. Moi, j'ai été conduit dans une réflexion à travailler et à étudier un petit peu la question du père dans cette parabole. Et il y a des choses qui sont, me semble-t-il, essentielles et qui sont un encouragement pour tous les pères et les mères. Et quand je voudrais dire que quand je parle de père, c'est le sens parental, les parents en quelque sorte. Hein, c'est pas l'un sans l'autre. Bien sûr, on comprend qu'il y ait là quelque chose de caractéristique dans l'ordre créationnel, le père, la mère et puis les enfants. Mais je voudrais quand même dire aussi, et je voudrais penser à nos sœurs qui sont naturellement eh bien chrétiennes et qui quelque part font office d'autorité et de responsabilité paternelle parce qu'il n'y a plus de père. Soit il est encore là et puis on ne sait plus où il est, ou alors tout simplement il a pris sa valise, il est parti. C'est terrible la situation. Et au milieu, il y a les enfants naturellement. Les pères, si l'on veut en parler, eh bien, on a matière à réflexion, mais je vais faire simplement un tour d'horizon avant d'aller dans le vif du sujet. Les pères qui sont cités dans la Bible et où il nous est montré qu'ils ont pleuré, qu'ils ont prié pour leurs enfants. Ouais. C'est un aspect que j'aimerais apporter brièvement, hein, c'est simplement une introduction. Ceux qui ont pleuré, ceux qui ont prié, ceux qui ont fait véritablement, eh bien là, une démarche vers Dieu, parce qu'ils avaient en conscience, même avant que les paroles soient dites par Malachi, ce sentiment à l'intérieur que c'est lui qui allait changer le cœur, qui allait ramener le cœur des pères à leurs enfants et vice-versa. Parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre, c'est pas nous. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de père parfait, qu'il n'y a pas de mère parfaite. nous faisons avec les moyens que nous avons. Nous le faisons du mieux possible, naturellement. Nous le faisons avec ce que nous avons reçu de nos propres parents, le plus souvent. Et il est très difficile d'entendre « tu es un mauvais père, une mauvaise mère ». Il y a peut-être des réalités quelque part dans notre monde. Mais ne nous laissons pas accuser par ce genre de choses, parce que, vous savez, notre position n'est pas une position de juge. Hein. On est des graciés et des rejetés, alors ça devrait nous donner une autre notion des choses. Et je voudrais le dire ce matin, parce que peut-être que ça peut remuer un petit peu, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y a pas de père parfait. Si, il y en a un. On en parlera, et ça sera la conclusion de ce père qui est parfait. J'aimerais mettre en parallèle dans notre pensée le Père céleste et le Fils terrestre. Ouais. Je sais pas, vous n'êtes pas fait d'illusions, nous ne sommes pas encore des fils célestes, hein. Et pourtant, c'est notre destination. Mais nous avons un Père céleste. Et nous, nous sommes de la terre, tout simplement. Il y a un livre qui a été écrit par ce pasteur qui s'appelait Donald G. Vous avez peut-être entendu les pleurs, les rires et les pleurs. Eh oui, c'est un livre excellent. Hein. Il est paru il y a à peu près 60-70 ans maintenant, mais c'est une référence. Hein. Peut-être qu'on ne le trouve plus aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est un livre qui nous inspire. Laissez-moi vous donner quelques mots, brièvement. Quand je pense à Abraham, je pense à Isaac. Il y en a eu d'autres avant, naturellement, mais pour synthétiser un peu, je pense à Isaac, qui a attendu, qui a pleuré, qui a supplié, « Seigneur, donne-moi une postérité. » Il l'a eu, la postérité. Et un jour, Dieu, sans changer d'avis, parce que c'est son plan, il lui dit, « Tu vas monter sur la montagne de Morija et ton fils que je t'ai donné, celui par lequel, eh bien, véritablement, Isaac que tu aimes, tu vas me le sacrifier. » Imaginez-vous, prier, pleurer, supplier. Et pourtant, Abraham le fait, mais il ne le perd pas. Oh, ça, il y avait derrière, tout simplement, le sacrifice absolu. C'était un message prémonitoire. De ce que le Père Céleste viendrait avec le Fils du Ciel sur la terre pour nous donner, eh bien, la rédemption et le secours. Quand je pense à Isaac lui-même, avec ses deux garnements, vous connaissez? Eh! Parce que là, c'est un père qui riait plus, hein. Même s'il s'appelle Isaac. Vous savez ce que ça veut dire, Isaac rire? Là, il avait plus envie de rire. Hein. Parce que, il y avait un problème dans la famille, c'était le favoritisme. Moi, j'aime maman et l'autre, il aime papa. Alors ça, c'est à déconseiller au plus haut point. Hein. Et il va être trahi, Isaac, hein, avec les acrobaties de Jacob. Hein, ouais. Se faire passer pour une biquette, vous vous rendez compte? Enfin, avec le poil de chèvre, etc. Vous connaissez l'histoire. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on ne fera pas le reste. Vous rendez compte de ce juge, qui était un juge qui a été quand même exemplaire, un homme de foi, Jephté, qui par un zèle inintelligent, va sacrifier sa fille. Ah oui, ah, il a dû pleurer après. Et il l'avait fait au nom de l'Éternel, mais Dieu ne lui avait pas demandé. Comme quoi il peut y avoir des dépassements, et terribles. Je pense à Samuel, je pense au sacrificateur Élie, qui avait, surtout le sacrificateur Élie, il a dû pleurer et prier parce que il avait eu, Élie avait eu des fils qui étaient des vauriens. Samuel, ses fils, ils avaient rien à faire de la sacrificature de son père, hein. Il fait ce qu'il veut, le père, et puis nous, moi, on fait ce qu'on veut, hein. Quand on arrive à David, vous rendez compte que David, qui était un homme de Dieu, selon le cœur de Dieu, a pleuré des jours et des nuits. Ah, c'est sûr qu'il a eu il a trébuché sur une pierre à un moment donné. Hein. Et c'est à partir de ce moment-là que tout s'est déroulé dans un sens un petit peu difficile. Quand il a vu Absalom, quand il a eu la révolte d'Absalom, et puis comme si c'était pas suffisant, David a été un homme qui a pleuré. D'ailleurs, quand vous lisez le psaume, il parle de ses pleurs. Hein. Je crois que c'est lui qui dira « mes pleurs, mon chagrin remplit mon outre ». C'est pour vous dire qu'il a versé quelques larmes. Et puis tout de suite après Absalom, il y a l'histoire, ou avant, je ne sais plus exactement, mais il y a l'histoire d'Amon et de Tamar. Hein. Frère et sœur, je dois dire le mot, inceste, là il va pleurer. Il y a Ézéchias, on en parlait vendredi soir, parce que c'était le thème de notre réunion d'évangélisation, qui lui va véritablement, eh bien, après avoir fait vécu un miracle extraordinaire d'une guérison alors qu'il est à la mort, va mettre au monde un Manassé. C'est terrible, un homme qui va lui succéder. Enfin, il l'aura pas vu, hein, dans certainement dans ses œuvres épouvantables. Mais toujours est-il que c'est quelque chose de terrible. Lui, c'était un homme pieux et son fils va devenir un occultiste qui va favoriser l'occultisme en Israël. Et puis, je terminerai par Job, hein. Job. Il est intéressant, Job. Parce que là, ça peut nous inspirer parfois lorsque nous pleurons sur nos familles. Mais c'était un homme extraordinaire. Un homme de foi. Un père attentionné. Laissez-moi simplement lire c'est dans son introduction, finalement, de son livre. Il nous a dit qu'il était très riche. Et qu'il avait des fils, qu'il avait des filles. Que c'était un prince de l'Orient. Et à un moment donné, devant toute cette opulence, cette fortune, cette position princière, il nous a dit que ses fils allaient les uns chez les autres et ils donnaient tour à tour un festin et les invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Jacob avait l'habitude de procéder. Vous rendez compte, il anticipait, lui, sur les fautes de sa postérité. Eh oui. Les rires et les pleurs, on peut le dire. Alors, on va s'intéresser au Père Céleste, qui est confronté avec toute sa famille, famille humaine. Et il y a du monde, hein, quand même. Et il y a du monde aussi dans les églises. Et ça, c'est sa famille proche, on peut dire. Le Père Céleste, on pourrait le résumer de cette manière, c'est l'histoire pathétique de l'attente d'un retour. Et qui n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça remonte à Genèse chapitre 3. L'attente d'un retour, et j'y ajouterai la race humaine, parce que ceux qu'il a créés, ils sont sur la terre, c'est les fils de la terre. Laquelle humanité, tout simplement, a répudié la tutelle divine. Parce que si Dieu était là pour conduire, diriger et inspirer dans un monde de bien, dans un monde idéal, eh bien, on s'aperçoit que l'homme, à ce moment-là, dès les premiers pas, a commencé à dire « Nous n'avons pas besoin de Dieu, on peut se débrouiller tout seul. Bon, » ça va passer par Babel et puis tout le reste. Hein. On n'en finit pas, parce que toute la Bible est pleine de cela. Tout simplement, nier ou s'affranchir de la tutelle de Dieu pour orienter sa destinée vers les voies de l'indépendance. C'est bien le problème, hein, dans les familles. Un petit papa-maman, et c'est très bien. Mais quand ils arrivent, et il faut le reconnaître, faut en faire des hommes. Hein, faut pas les materner jusqu'à 35 ans. Hein. Mais toujours est-il que, à un moment donné, il y a le mot « indépendance ». Alors il y a la bonne indépendance dans l'amour, et puis il y a celle dans la révolte. Et notre monde est un épris de folie et d'indépendance dans la révolte. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Remarquez, il y a de quoi faire avec tous les pouvoirs et toutes les dominations et tout l'esclavage qui peut exister d'une façon, sous une forme ou sous une autre. Donc la voie de l'indépendance. Dieu, c'est fini, on n'en a plus besoin. Et vous savez, je crois que si on voulait peut-être mettre une image dessus, on pourrait peut-être dire que l'humanité ressemble tellement à ce phénomène que nous avons dans notre société, l'immigration. Ça ressemble à un immigrant qui part vers une terre lointaine, il ne sait pas tellement où il va, et avec le temps. Et avec les temps qui passent, il finit par oublier sa race. Il finit par oublier sa langue, ses origines. Ainsi, l'homme perd le souvenir de son identité. On pourrait le dire de cette manière, je le dis de cette manière d'ailleurs. L'identité réelle de l'humanité, c'est son créateur, c'est Dieu, c'est son Père. L'histoire humaine est jalonnée de la chose semblable. C'est l'humanité dans sa globalité, c'est peut-être aussi cette humanité chrétienne où quelquefois nous disons, mais bon, voilà, on a fait des belles expériences, on a vu que Dieu est Dieu, et puis ceci et cela, puis on referme de plus en plus la relation parce qu'on se dit, c'est peut-être... L'herbe est plus verte ailleurs. Et c'est ce qui se passe pour les émigrés. Au bout d'un certain temps, ils sont complètement incorporés. On le voit dans les grandes nations d'aujourd'hui. Hein. Voilà, d'origine, ceci, mais il ne reste plus vraiment de l'origine. Ils ont été incorporés hein, dans la nation qui les a accueillis. On pourrait parler de l'abaissement de Dieu. C'est-à-dire l'abaissement à travers la personne de Jésus-Christ qui est sauveur, et à l'abaissement de Dieu a répondu l'ascension de l'homme par le salut, par la grâce et par la foi. Ancien Testament, Nouveau Testament. Je suis en train de schématiser en ce moment. Hein. Qui passe par la repentance, par la conversion, par la nouvelle naissance. Et c'est ainsi, et pourquoi? Eh bien, il nous est demandé en retour, et c'est Jésus qui le demande, tout simplement de dire dans la prière, non pas Jéhovah, Yahvé, Adonai, mais de dire maintenant notre Père. On revient. Première parole merveilleuse, extraordinaire de l'Évangile. Jésus nous dit quand vous priez, dites notre Père. Dites mon Père. Eh oui. Notre société est cassée, hein, parce qu'on ne sait plus qui est père, qui est mère, hein, père, et mère, et mère. Enfin bon, grand-père, grand-mère, on est un peu perdu dans tout ça. Hein. On est un peu perdu, il faut l'avouer. Alors si on est perdu, nous, dans nos repères et dans les principes, qu'est-ce que ça doit être pour les enfants? Les petits-enfants, et ceux qui viendront également dans le temps, parce que le mal qui est fait, il ne se réparera jamais hein, sur la terre. Je peux vous le dire. Le seul mal qui se répare, c'est lorsqu'il y a la rédemption. La réponse, elle est comme ça. Et on s'aperçoit que malgré les verbiages et tout ce que l'on pourra faire, les lois, les amendements, etc., etc., ça ne changera rien au problème. Il y a une vérité créationnelle, c'est tout. À moins que l'on pense que Dieu n'est pas là. Alors, bon, de toute façon, je crois que c'est le résultat de tous ces hommes qui vivent dans ce monde et qui disent « mais Dieu n'existe pas ». Alors, c'est nous qui sommes Dieu. Et nous faisons ce que nous voulons. Avec notre science, avec notre sagesse. Avec notre intelligence, notre Père, nous dit Jésus. Parce que c'est revenir à la maison. Vous avez parlé? Vous avez vu? Il est parlé de maison, là. C'est revenir à la maison, et notre maison, notre Père qui est aux cieux. Revenir à Dieu, c'est revenir à la maison. Pas les jardins d'Éden, ça c'était terrestre. Mais dans autre chose que nous dit le livre de l'Apocalypse, c'est que là, il y a quelque chose que nous ne pouvons qu'entrevoir, où on ne peut que lever le voile, que vraiment très très peu, mais le livre de l'Apocalypse et les prophéties qui nous sont données, et l'eschatologie du Nouveau Testament, nous dit qu'il y a quelque chose pour nous. Et ça, nous y croyons, c'est l'espérance de notre vie. Nous allons au ciel. Notre destination, c'est véritablement le royaume des cieux, en ayant acquis à l'intérieur de nous-mêmes, sur cette terre, auprès de notre Père Céleste, le royaume de Dieu. Dieu, et ensuite des cieux. Mais il faut d'abord qu'il soit là, hein. Autrement c'est pas possible. Parce que nous sommes destinés, frères et sœurs, au ciel, ça c'est certain. Et moi je voudrais vous parler maintenant de la valeur de l'exemple, parce que c'est important. Dans Jean chapitre 13, Jésus dira à ses disciples pour une situation qui n'a rien à voir avec ce que nous disons, mais quand même, Jésus parle de l'exemple. Il dira, car je vous ai donné un exemple, vous savez c'était le lavement des pieds là, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous devons imiter en tout et partout et surtout l'exemple que Jésus nous a donné. C'est pas seulement de se laver les pieds, hein, vous avez bien compris. C'est très restrictif, ça. Mais néanmoins, il se présente comme le modèle, l'exemple parfait. Dans 1 Pierre, l'apôtre nous dit « c'est à cela que vous avez été appelés, Christ vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces ». Quelle est notre référence en tant que chrétien, aujourd'hui, demain et toujours? Mais c'est la personne de Jésus. Ce n'est pas les commandements d'une église. Ce n'est certainement pas, eh bien, les décrets qui pourraient survenir ou être mis en place dans nos associations cultuelles ou dans nos mouvements d'une manière ou d'une autre. Tout converge sur la parole de Dieu et au cœur de la parole de Dieu, il y a Jésus parce que Jésus est vivant dans sa parole. Et il doit être vivant en nous parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Père céleste et Père terrestre. Alors, on avait parlé du Fils terrestre, mais là, on va parler des Pères terrestres. D'abord, en ce qui concerne l'exemple, moi, vous savez que j'ai une propension pour les proverbes. Alors, je vais vous en citer encore deux. Voilà. C'est Luther qui a dit ça. Luther, c'est quand même, bon, hein. Il dit que les cloches appellent à l'office et n'y vont jamais. Vous voyez un peu le rapport avec l'exemple? Oui. Elle sonne pour les autres. Allez, venez à la messe. Nous, on n'a pas de cloche. Hein. Non. Donc, vous venez tout seul, c'est très bien. Mais, écoutez, les cloches appellent à l'office, mais n'y vont jamais. Oh, ça ressemble à ce que Jésus dit. Faites tout ce qu'ils vous diront, mais ne faites pas ce qu'ils font. Hein. Matthieu, chapitre 23. Et puis il y en a un autre, c'est une valeur vraiment très signifiante. C'est un proverbe suisse qui nous dit ceci: les mots sont des nains. Les mots sont des nains, petits. Mais l'exemple est un géant. Eh oui. Et tant ce que nous pourrons dire et redire, c'est une chose. Il faut le dire. Jésus a dit. Il a parlé pour que les autres écoutent. Mais je pense que Jésus a allié à la fois ce qu'il disait et il l'accordait avec ce qu'il faisait. Et je pense que là, il faut être cohérent. Il faut certainement, observer les choses qu'il nous donne. Alors, je voudrais parler des pères terrestres. Il y a quelques leçons essentielles que j'aimerais rappeler, vous les connaissez, mais c'est bien de les vivre. La première chose, c'est que le père dans la parabole était de droit responsable de l'éducation laissée à son fils en bien et en mal. Donc, il n'y a rien qui pouvait suggérer qu'il a mal éduqué son fils, c'était le bien. Un père avait deux fils. Voilà. On n'a pas de commentaires, il aurait pu y avoir des livres et des livres qui auraient été écrits sur cette simplement petite phrase, mais je pense qu'il était responsable, comme nous, en tant que pères, parents, nous sommes responsables de l'éducation de nos enfants en bien ou en mal. Voilà, ça c'est la première chose, il faut le dire. Un fils, par voie de conséquence, visiblement bien élevé. Maintenant, après ce qu'il en a fait de son éducation, c'est autre chose, parce que il nous a donné quelques petites attitudes et quelques comportements, voire tombés dans des états qui étaient plutôt je vais pas mettre d'adjectif dessus, mais enfin bon, on a compris ce que ça voulait dire à travers les lignes. Un fils visiblement bien élevé, mais qui a mal tourné. Voilà. Moi, ça me fait penser à Jephté, qui a bien commencé. Non, qui a mal commencé la vie de Jephté et qui a bien fini. Donc c'est l'inverse là. Vous connaissez l'histoire de Jephté, vous retrouverez tout ça, c'est l'histoire de la Bible. Donc, il a mal tourné après avoir eu tout ce qu'il fallait. Et moi je voudrais quand même le signaler, parce que c'est pas parce que nous avons aussi quelquefois bien, même très bien élevé nos enfants, c'est pas la garantie qu'ils tourneront bien. Il y a tellement de vents contraires dans notre monde, etc. Tellement d'entraînement, tellement de faiblesses aussi dans nos enfants, qui peuvent se laisser partir de droite et de gauche. Maintenant, il faut donner à nos enfants ce qui est normal de leur donner, ce qui est bon de leur donner, ce qui est bien de leur donner. Mais ensuite, si vous oubliez qu'il y a le Seigneur qui va lui le conduire et le diriger, c'est à lui de le faire. Et il le fera, le Seigneur, parce qu'on lui demande. Parce que quelquefois, nous avons vu des enfants et des familles, et on en connaît, On en connaît des parents qui étaient consacrés, qui étaient engagés dans la vie spirituelle et qui véritablement se sont même occupés de d'autres enfants, qui ont fait les colonies et puis les camps, etc., etc. Et ils ont eu des situations mais impossibles, qui vous laissent quelquefois chancelant en disant « mais qu'est-ce qui est arrivé ? Pourtant, c'est une bonne famille. » Et voilà, c'est comme ça. L'apprentissage de la vérité. C'est pas tant qu'un enfant peut casser un vase, vous aussi vous pouvez le casser le vase, vous pouvez casser une assiette, d'accord? Mais l'apprentissage de la vérité chez un enfant, c'est essentiel. Et je prends un cas. Si un père dit, par exemple, à son fils ou à sa fille, parce que quand je parle de fils, c'est fille aussi, naturellement, les fils et les filles prodigues, c'est la même chose. Si un père donc dit le mensonge chez mal à son enfant, et que son enfant l'entende et qu'il dise « mentir, c'est pas bien, papa l'a dit ». L'enfant va retenir dans son esprit, tout simplement, que mentir, c'est mal, puisque l'autorité, c'est son papa. Et c'est défendu de mentir. On prend le cas, tout simplement. Mais si papa le fait, bon. Je regarde personne, Si papa le fait, alors, l'enfant dira, s'il fait, c'est bien. Et s'il l'entend à plusieurs fois et s'il le voit à plusieurs fois, il dira, mais ça finit par être bien, naturellement. C'est vrai aussi, frères et sœurs, pour la colère. On a tous des tempéraments différents, Ça peut arriver que, quelquefois, ça déborde, Ça peut arriver, on est fatigué, on a toutes sortes de soucis, on a toutes sortes de choses. Mais c'est vrai pour la colère. Parce que les enfants sont colériques, quelquefois ils tapent du pied, je veux, mais quelquefois les grands ça se passe pas de la même manière, c'est pas pour un bonbon, mais quelquefois c'est à peu près la même chose. Des comportements. C'est vrai pour la grossièreté du langage. Ah oui, c'est un gros mot, tu ne le dis pas, et tout de suite après, dans la maison, on entend toutes sortes de petites des choses qui volent lourdement, pom, qui tombent par terre. Tu le dis pas, hein, surtout, hein. Tu répètes pas ce que je viens de dire. La grossièreté, la violence. Parce que les enfants peuvent être violents aussi, hein. Il y en a qui se tapent dessus, hein. Je peux vous dire, eh oui. C'est pas bien d'être violent. La colère, violence, c'est la même chose. C'est pas bien. Tu tapes pas ton petit frère, tu tapes pas ta petite sœur. Mais quelquefois, quand on voit qu'il y a papa et maman qui sont en train de se voyer des petits oiseaux, là, qui chantent et toutes sortes de choses, avoir parfois des gestes déplacés, ça, c'est pas bien non plus. L'hypocrisie, c'est-à-dire la droiture. Si vous voulez vous occuper du petit, là, qui est en train de déménager. Voilà, merci. Voilà. L'hypocrisie, c'est-à-dire tout ce qui est vu, entendu, chez ceux qui l'interdisent. Vous comprenez? On a dit, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et que finalement, eh bien, ceux qui nous ont interdit, ils le font eux-mêmes. Alors, à ce moment-là, ça ne peut pas aller loin. Et ils le font. Il faudrait pas qu'ils le fassent parce que c'est l'exemple à ce moment-là. Et un mauvais exemple. Et, frères et sœurs, je voudrais vous dire, ça se passera dans le temps, dans les années, dans les semaines, dans les mois, etc., etc. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'enfant va retenir cela. Il va le retenir. Il va le mémoriser. Et à un moment donné, ben voilà, nos enfants, ils sont de notre chair, hein. Ils ont nos ressemblances, et ça peut ressurgir, et on va en faire peut-être, voilà. Vous savez, les enfants qui ont été battus, maltraités, martyrisés dans leur enfance, ce sont souvent des bourreaux après, quand ils ont une famille. Et est-ce qu'on doit leur tenir compte? Non, il faut remonter, hein. Bien sûr qu'ils sont responsables. Mais quelquefois, ça explique la violence que nous avons dans notre monde. Non, il y a de la violence dans notre monde, hein. C'est terrible, hein. C'est terrible. Le résultat sera à la mesure. Selon le principe que l'apôtre Paul nous donne et nous rappelle, c'est que celui qui sème, il le moissonnera. Soyons sages, mes frères et sœurs, dans nos familles, dans nos couples, parce qu'il y a des petits yeux, il y a des petites oreilles, il y a des enfants qui sont autour de nous. Le fils prodigue n'était pas un ange. Ah, il faut le dire, c'est vrai. Toutefois, il a pu revenir, et c'est le mot que j'aimerais que vous reteniez. Il a pu revenir. Il a pu prendre le chemin, rebrousser le chemin et revenir d'où il était parti. Tout simplement. Et vous savez pourquoi il a pu revenir? C'est parce qu'il savait. Là aussi, je marque le verbe. Il savait. Il avait la conviction de quelque chose qu'il connaissait pertinemment, qu'il avait présidé à toute son enfance, son adolescence. Il savait que son père était droit, il était juste et il était vrai. C'est ce qui lui a permis de revenir, parce qu'autrement on ne revient pas. Pourquoi rentrer tout à nouveau dans une prison, dans quelque chose dont elle était malheureux, quelque chose qui nous a fait souffrir, qui nous a scandalisé, qui nous a choqué? Il savait que son père avait ses qualités de droiture, de justice et de vérité. Et à la vue de son père, la vue de son père donnait, eh bien, il avait gardé un exemple intact, pas parfait. C'était certainement pas un saint, dans le sens de perfection, mais il avait gardé un témoignage intact. Moi, je vais voir Job un peu dans ce cadre-là. Il nous est dit que Job était un homme pieux et intègre. Alors peut-être qu'on se sent en défaillance, ou on se sent en faillite en disant, mais on ne sera jamais dans la perfection, frères et sœurs. On a nos travers, on a toutes sortes de choses, mais on a Dieu avec nous pour nous transformer, nous donner de lui ressembler. Ça, c'est une autre affaire. Et ça, faut pas l'oublier. Hein. On n'a peut-être pas eu de la part de nos parents toute l'éducation, ce que nous aurions aimé, ce que nous aurions... Mais nos parents, enfin, moi je parle pour moi, ils nous ont donné ce qu'ils pouvaient nous donner. En tous les cas, en ce qui me concerne, ils nous ont aimés, nous les enfants. Eh oui, il y avait bien d'autres choses, certainement. Mais à côté de ça, c'est ça ce qui est important. Honore ton père et ta mère pour vivre longtemps sur la terre. Ça, c'est aussi encore une autre vérité. Alors, on va parler des conditions du retour du fils vers son père, qui ont été rendues possibles, figurez-vous, pour plusieurs raisons. D'abord, le témoignage familial, fiable et sans faille du père, même s'il y avait naturellement ce que nous venons de dire. Mais néanmoins, ce qu'il avait retenu cet enfant, c'est qu'il n'y avait pas eu de choses, voilà, d'une conséquence qui aurait été rébiditoire. Voilà. Vous faites le tri, hein, quand je parle. Non, parce que quelquefois, les syllabes et les mots se mettent pas en... Mais vous comprenez quand même. Hein. parce qu'il avait remarqué ce que son père finalement vivait, eh bien, c'est ce qu'il disait, tout simplement. Et là, il y a quelque part ce qui ressort, l'intégrité morale et de la vie. Et si les chrétiens n'en sont pas là, mes frères et sœurs, eh bien, il y a un problème. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut. On a fait quand même profession de foi, on a déclaré qu'on suivait Jésus. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Tout. Voilà. Maintenant, ce n'est pas une parole culpabilisante, mes frères et sœurs, que je vous adresse. Pas du tout, c'est pas du tout ma pensée. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous devons tendre, non pas pour notre salut personnel, chacun, en tant qu'adulte, mais que nous devons voir que nous avons aussi des enfants derrière. Et c'est aussi pour leur salut. Nous travaillons pour leur salut. La priorité d'un père et d'une mère, selon la nature, hein, c'est justement de donner la vie à nos enfants. Et de leur donner non seulement la vie, mais de leur donner une vie qui soit honorable, qui soit pour leur bonheur, qui soit pour le bonheur de tous. Et quand ils reproduiront finalement, eh bien, là, la vie, se souviendront d'exemples de leurs parents. Et ils feront la même chose. Parce qu'on a remarqué que nos enfants, quand ils ont été élevés dans un foyer de paix, de tranquillité, où il y a de l'amour, hein, où il y a l'absence de toutes ces choses, vous savez, qui sont autour de nous, hein, qui c'est toute cette pollution et toutes ces choses polluées, ben, ils ont pas envie d'y aller après, hein. Ils veulent, quand ils reproduisent eux-mêmes un couple, une famille, et ils feront la même chose pour leurs enfants. Maintenant, faut tenir compte que le monde change, hein. C'est pas évident d'élever des enfants aujourd'hui, hein. Moi, j'ai pas envie de me remarier, hein. J'y suis et j'y reste, hein. Enfin, excusez-moi, je m'égare. Mais je reviendrai. Alors, oser aller, oser revenir, c'est ce qui était finalement le sujet d'il y a un instant. Oser revenir vers son père en confiance. Vous savez que la confiance, c'est la chose, une des choses les plus précieuses dans la vie. Ah oui, parce que c'est l'absence complète de doutes, de soupçons, de toutes sortes de suppositions, de suspicions, enfin tout ce qui n'en finit pas, et qui rend les hommes malades de toute façon, hein, quoi qu'il en soit, en confiance, car le Fils savait qu'il valait mieux, et selon le texte que nous avons dans Luc, travailler comme un mercenaire, plutôt travailler comme un mercenaire chez son père, que de garder des pourceaux. Vous savez ce que veut dire le mot pourceau ? C'est cochon. Et pour un juif, je peux vous dire que c'est quand même une distinction en dignité. Hein. Un juif, garder des porcs, garder des cochons. Et là, il avait fait le contrebalancement. Moi, je souhaite, et avec vous, parents, je souhaite que nos enfants qui ont été traînés leurs bottes dans toutes sortes de choses impures à un moment donné, et priez donc pour ça, pour qu'ils en aient le dégoût. Et qu'ils reviennent à la maison. Qu'ils reviennent dans votre maison, dans votre foyer. Qu'ils en aient le dégoût. Seigneur, dégoûte-nous de ceci et cela. C'est un combat permanent, hein, de toute façon. Mais nos enfants qui ont été et qui connaissent, hein, finalement la parole. Il préférait encore revenir faire son père, être le dernier des ouvriers, que de demeurer dans la révolte. Qu'ils soient fatigués, nos enfants, d'avoir traîné leur bonne dans la boue. Et qu'ils soient fatigués, finalement, de se révolter. La révolte, c'est un esprit. Connaissez, hein, Timothée le dit, esprit des derniers jours, et qui détruit, qui véritablement, eh bien, casse la vie. Ce fils savait que son père, s'il revenait, il savait que son père allait le traiter avec justice, malgré, en dépit, malgré sa rébellion, malgré ses fautes, ses erreurs et ses choix passés. C'est fini. Soyons dans un état d'esprit où nos enfants, quand ils reviennent dans la repentance, ou quand ils tentent de revenir tant bien que mal, finalement vers vous, oublions, ne leur servons pas des repas réchauffés. Vous voyez ce que je veux dire? Certainement pas. Parce que nous avons le cas contraire. S'il n'avait pas eu le modèle de justice dans son père, n'aurait-il pas été paralysé par la peur? Parce qu'un père reste toujours un peur, quoique un père, par exemple. N'aurait-il pas été paralysé par un jugement cinglant, cynique et impitoyable? On a une parabole par rapport à celui qui ne veut pas pardonner. Vous connaissez Jésus, hein, dans ce qu'il nous dit sur là les intendants, naturellement. Il ne voulait plus rentrer à la maison parce qu'il avait peur d'être humilié, tout simplement, couvert de honte. Ah, voilà le mécréant. Voilà, c'est mon fils, mais aujourd'hui, je me demande si c'est encore mon fils. Voilà ce qu'il a fait. Il raconte à tout le monde. Non. Toujours le cas inverse, qui nous montre qu'on faut voir un petit peu les deux sens. Hein. Le fils aurait pu dire, j'aimerais bien revenir dans la maison de mon père. Ah oui, j'y pense tous les jours. La nuit, je me réveille et je me souviens de ma vie passée. Je me souviens de mon enfance. Je me souviens de cette maison où j'étais tellement bien, où il y avait des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, regardez dans quel état je suis. Je le m'aperçois. J'aurais bien voulu revenir dans la maison de mon père. Mais mon père me traitera-t-il comme je l'ai vu souvent traiter les autres? Ah! Avec ses ouvriers, les insultant, les brutalisant, leur disant que c'était des bons à rien, que c'était des inutiles, que s'ils étaient là, c'est que finalement, eh bien, on les assistait pour vivre, mais rien d'autre. Et comment mon père, parce que je l'ai vu à ce moment-là, c'est pas pour moi, mais comment je l'ai vu, je parle à la place du... Il les a blessés, il les a abaissés, il les a tout simplement écrasés. Nous devons avoir une vie cohérente. Ce que nous sommes dans la vie sociale, ce que nous sommes dans la vie familiale, ça doit être la même chose. Ouais. Et c'est pas peut-être nos responsabilités, notre élévation sociale ou autre chose, notre titre, qui doit changer les choses. On a souvent entendu parler des enfants de militaires ou de gendarmes, je ne dis pas ça, hein, mais c'est vrai que quelquefois, quand ils rentrent à la maison, ils sont comme s'ils étaient à la caserne. Hein. Ah, c'est terrible pour leurs femmes et pour leurs enfants. On l'a entendu! C'est pas quelque chose que j'invente, parce qu'il y a une autorité, il y a quelque chose là qui est très... Et ils n'arrivent pas à faire la transition. Non, c'est pas l'extérieur qui doit influencer sur nous, c'est nous qui devons finalement eh bien, être dans une position où on doit être soi-même, tout simplement. Et si nous désirons l'amour, la bonté, être là, fidèles dans ceci ou dans cela, mais nous devons l'être en tout. C'est comme ça que nous portons le témoignage à l'extérieur de toute façon. Ah oui, voilà. Parce que c'est toujours le même problème de la loi et la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Parce que notre Père Céleste, il ne nous a pas mis sous la loi, il nous a mis sous la grâce. Ou nous sommes passés de la loi, religieuse si vous voulez, ou morale, mais nous sommes... maintenant sous la grâce. Et ce qu'il a fait pour moi, moi son fils, eh bien, lui, mon père, moi, le père terrestre, avec mes enfants de la terre. Va-t-il me faire honte publiquement quand je vais revenir? Moi, je ne trompe pas parce qu'il va me faire honte. Qui? Lui, qui a finalement été humilié par mon comportement, parce qu'il pouvait y avoir un compte à rendre entre le fils et le père, et puis le père et le fils. Regarde, moi, je t'ai bien élevé. Et t'étais traîné là dans toutes sortes de souillures. Hein. Et puis maintenant tu reviens à la maison. Et tout le monde le sait que tu as fait ceci et cela. Et tu as touché à ma réputation, moi en tant que père. Est-ce que l'on pourrait pas parler à ce moment-là, eh bien, d'une susceptibilité et on ne pardonne pas? Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes souveillés. Et il se leva, et il a trouvé l'énergie pour dire, eh bien moi, mon père, je le connais, il va m'ouvrir les portes, il va m'ouvrir son cœur. Quoi que j'ai fait, et j'en ai fait des choses, et j'ai marché dans toutes sortes de combines, dans toutes sortes de choses qui étaient en tôle. Quel accueil attendre quand un fils ou une fille revient à la maison? Quel accueil? Est-ce qu'il ne va pas me tourner le dos dès qu'il va m'apercevoir? Refusera-t-il de m'écouter et de peut-être entendre un peu ce que j'ai à lui dire et pourquoi ceci et cela? Lui, ce père, digne et honorable que j'ai tellement déçu par mon comportement. Ça, c'est le fils qui parle. Je l'ai déçu et j'en suis tellement malade, j'en suis tellement contrit, je me dégoûte moi-même, mais je peux quand même revenir parce que je crois qu'il saura me pardonner. La faiblesse est humaine, n'est-ce pas? On peut tous tomber dans toutes sortes de choses. Dans la parabole, le fils revient, le père attend et le fils revient, le père scrute depuis certainement des lustres à l'horizon et il voit la silhouette d'un garçon qui vient en haillon avec sa misère, mais il le reconnaît. Et vous avez remarqué, il y a un miracle qui se passe à ce moment-là. Le fils et le père se parlent. Ah! Ils se parlent! Et ça, c'est quelqu'un, c'est quelque chose. On entend tellement de nouvelles et ça nous attriste profondément. Il ne parle plus à son père, il ne parle plus à ses parents, les parents ne parlent plus à leur fils, etc., etc. Mais là, ils se parlent. il faut que nous puissions arriver à cette stature, cette ouverture de nous parler les uns les autres. C'est dur, hein. C'est pas facile. Moi, je lui parle plus. Mais il se parle. Et si nous observons rapidement l'accueil du Père, il ne fait ce Père aucunement des paroles, il n'exprime aucunement des paroles qui pourraient être désobligeantes. Ah, je te l'avais bien dit. Je t'attendais au coin du bois. Je savais qu'un jour tu reviendrais. Mais là, j'ai concocté pendant des mois et des mois ce que j'avais à te dire, ce que je te dis maintenant. Tu vas voir ce que tu vas voir. Le Père parle au Fils, mais il ne lui dit pas ça en tous les cas. Je t'avais averti, et tu n'as pas suivi mes conseils. Et il n'y a aucune bordée de reproches. Si tu reviens, parce que tu reviens, et moi je sais pourquoi tu reviens, le Père dit au Fils, c'est que tu es dans la panade maintenant. Hein. Eh, papa, il a de l'argent. Hein. Voilà, t'as plus de travail, t'as plus rien du tout. Tu es dans la panade et tu as besoin de moi. Et la toute suffisance du Père qui n'est pas forcément avec des bonnes intentions en disant « Mais rentre mon petit, rentre, tu vas voir que après tu vas payer la note. Tu as besoin de moi. » Non, le Père ne dit rien. « Ah, c'est facile d'aller courir le monde. Puis maintenant, alors que tu pleures, que tu es dans la panade, que tu viens maintenant chercher du secours. » Rien de tout cela. Et le Père va avoir cette stratégie royale, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose. Royale parce qu'elle est aussi divine, qui est celle-ci, c'est le pardon et l'oubli. Pardon, et on oublie. 15 jours après que le fils est revenu, son père lui dit, j'aurais besoin d'un petit entretien, tu vois, on a passé un bon moment, quand tu es revenu, on était très contents, mais maintenant tu vas passer dans mon bureau, et on va mettre les choses au point. Pardon, c'est l'oubli. D'accord? On ne revient plus en arrière. Dieu a pris nos péchés, et les a jetés au fond de la mer, l'oubli. Car l'amour puise ses ressources et son énergie dans l'humilité. Et ce qui fait la force de l'amour, c'est d'être humble et d'être compatissant. Je voudrais simplement dire, avant de terminer, c'est que s'il en avait été autrement du comportement du Père, le Fils ne serait jamais revenu. Il n'allait pas se faire massacrer, hein. Même s'il était malheureux, même s'il était dans un état épouvantable, s'il était descendu en bas de l'échelle, il ne serait pas revenu. Il ne serait peut-être jamais revenu. Ah tiens, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Vous vous souvenez? On l'a lu ce matin, non? Ah oui, il me semble que je devais être là, hein, certainement. Oui. Le cœur des enfants à leurs pères. Et vice-versa, parce que ça va dans les deux sens. Il y a l'offensé, il y a l'offenseur. Quelle position nous pouvons avoir? Et ça dans le cadre d'une famille, naturellement. Alors, comment construire un pont? Oui. Vous avez vu à Saint-Nazaire, là? Quand vous allez à Saint-Brévin, vous passez pas de chaque côté, hein? C'est pas conseillé, hein? Le pont nous permet à pied sec. C'est un guet, on pourrait dire. Hein? Construire un pont de nouvelles relations. Établi sur de nouvelles bases. Et ça se résume tellement simplement. C'est pardonner, c'est restaurer, et c'est rétablir. C'est exactement l'insigne. Mettez-lui une nouvelle robe. Donnez-lui une nouvelle alliance. Et mettez-lui du soulier au pied pour que maintenant il prenne une autre direction et qu'il puisse marcher sans se blesser. Pardonner, restaurer, et puis également réhabiliter. Combien d'hommes dans l'Ancien Testament ont fait des fautes monstrueuses et Dieu ne les a pas éjectés, hein, je pense à David. Ils ont même pas perdu leur royauté. Ah, ils ont été malheureux. Ils ont été finalement tellement tracassés, tellement malheureux. C'est vrai, ils ont eu des conséquences parce que c'est inéluctable. C'est pas que Dieu voulait qu'ils aient des conséquences, mais c'est que ils se sont mis dans des situations où il y avait des conséquences. Ils en ont souffert. Moi, je pense à Jacob, hein. Avec l'histoire, là, quand Joseph a été pris, et puis ensuite on a emmené Benjamin, là, il a pleuré, Jacob. Ah oui, mais c'était un troublion, hein, quand il était jeune, Jacob. Hein, il en a fait voir à toutes les couleurs. Hein. Et je crois que derrière tout cela, eh bien, la réhabilitation, elle existe dans l'Église. On peut tous tomber, on peut tous faire des choses complètement, c'est vrai, contraire. Mais on peut être réhabilité, en tous les cas, on est réhabilité par le Seigneur, quoi qu'il en soit. Pas toujours par les hommes, hein. C'est pas toujours ça. Maintenant, faut voir aussi les conséquences, les implications morales. Je suis tout à fait d'accord, il faut réfléchir à tout ça. Secret divin, c'est un miracle intérieur. Et ce miracle intérieur, moi, c'est un verset que je demande à Dieu, et je le cite souvent pour moi-même, hein, c'est pas seulement pour les autres, mais dans ce verset, il nous est dit cette parole dans Philippiens. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, qui produit dans le cœur des pères et des mères, qui produit dans les cœurs des fils prodigues et des filles prodigues, qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et le bon plaisir de Dieu, c'est qu'il y ait l'unité, qu'il y ait l'amour et qu'il y ait véritablement, eh bien, un retour. C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tous, naturellement. Retour rendu possible parce que le Fils savait, et vous m'avez entendu le dire et le redire, et je le redis encore une fois, que le Fils savait que son Père ne le rejetterait pas, parce que c'est notre chair, c'est notre c'est nous-mêmes. Il l'accueillerait pour lui-même, et non pour ce que le Père voulait qu'il soit ou qu'il devienne, à ses propres yeux et aux yeux des autres. Parce que ça, c'est quelquefois, on arrête les choses à un moment. Hein. On se dit d'accord, mais tu vas revenir, mais tu vas te tenir tranquille. Hein. Tu vas véritablement bien t'habiller, hein. Tu vas avoir un comportement. Mais c'est pas ça le pardon. C'était pas de dire, eh bien maintenant, moi je vais être fier de toi. Non, être fier d'un enfant, c'est quand il revient vers son père et qu'il lui demande pardon et que l'amour revienne. C'est bon. Mais pas qu'il soit formaté parce que son père a une image particulière de son fils. Et surtout vis-à-vis des autres. Combien d'enfants de chrétiens ont souffert parce que leur père était pasteur, on a normalisé les enfants avant qu'ils soient convertis, et on croyait que c'était presque, ils devaient être des saints. Ben, je peux vous dire qu'il y a des pasteurs qui sont descendus de haut, hein, parce qu'ils en ont vu de toutes les couleurs. Hein. Et c'est pas l'église qui doit me formater, finalement, nos enfants. Même quand nous sommes dans le ministère, c'est les parents. Il y a eu beaucoup de souffrance et il y a beaucoup d'enfants de chrétiens qui se sont jamais convertis. Parce qu'on leur a serré la vis, on leur a dit maintenant t'es le fils du pasteur, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça, etc., etc. Ben, je peux vous dire que les petits oiseaux, ils sont partis. Hein. C'est terrible ça. Hein. C'est toujours au regard du Seigneur et non pas au regard des autres. Ça va, vous n'êtes pas trop traumatisés ce matin? Non, mais vous me le dites, hein, parce que moi j'arrête tout de suite. Hein. Non, mais c'est vrai que ce sont des vérités que je vous donne. Et je suis pas là, et je le répète, je suis pas là pour vous culpabiliser quelqu'un. On est là justement pour vous aider et vous tendre la main. Parce que quelquefois, on se débat dans des problèmes, on ne sait plus comment s'en sortir. Surtout dans des questions tellement affectives et sentimentales. Ça fait plus de mal que le reste. Oui. Découle cette pensée du livre des Hébreux. Et là, quand je dis « je finis », c'était quand même que je tienne ma parole. Hébreux, et vous connaissez ce qui est dit. Chapitre 12, verset 9, je le lis rapidement. Puisque c'est une question d'éducation. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nos pères naturels, hein, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté et que nous allions au ciel. Vous avez remarqué les choses? Pour être bref, je voudrais simplement traduire. Attention à ceci. Nos pères terrestres, nos pères naturels, ceux de la terre, nous ont corrigés, c'est vrai, selon leurs idées à eux. Ah ! Selon leurs idées à eux, parce qu'on peut avoir ces idées d'éducation. On peut avoir des idées quelquefois orientées dans une théologie particulière, etc., etc. Mais est-ce que notre théologie, c'est la théologie de Dieu ? Ah, je pose des questions qu'il ne faudrait pas poser, hein. Ça, c'est une traduction moderne de la Bible. Ils nous ont corrigés selon leurs idées. Je pense à l'éducation, je pense à la religion aussi. Je pense également aux us et coutumes de notre pays, chrétien, etc., etc. Ils nous ont corrigés pour que nous soyons des êtres sociables, la sociabilité, selon les convenances du temps, le savoir vivre ensemble, etc., etc., mais selon leurs idées. Maintenant, les idées peuvent être bonnes parce que quelquefois elles sont inspirées de Dieu. Mais quelquefois, ces idées des pères qui nous ont corrigées avec une bonne foi, mais qui n'étaient pas éclairées selon l'esprit. Et qui, quelque part, eh bien, on dit ça, c'est chrétien. Ça, c'est ceci et cela. Alors que, finalement, il y avait des choses qui appartenaient beaucoup plus à une éducation humaine ou une éducation religieuse. On y est passé par là, hein, l'école. On connaît, hein. Voilà. Selon leurs idées, bien sûr. Mais Dieu, notre Père céleste, nous éduque ici-bas pour notre bien en vue du ciel. Il est dit en vue de la sanctification. en vue du ciel, parce que le ciel, c'est notre vraie demeure. Ça va être quelque chose quand on va arriver de l'autre côté. Hein. Ben, vous n'avez pas l'air d'être ému, hein, mais bon, c'est pas grave, on y reviendra. Je m'attendais à ce que vous saillez, tressaillir de joie comme ça n'est dit. Mais bon, on reviendra à ça. Hein. Oui, revenu notre vieille demeure, le Fils est revenu à la maison parce qu'il y a trouvé la joie et la fête. Et moi je dis être chrétien, c'est la joie et la fête et la paix entre nous. Et s'il y a ça dans nos familles, il y aura ça aussi dans l'Église. La fête, vous rendez compte, on va tuer le veau gras. À quand la prochaine agape fraternelle? On fera un barbecue ici si vous voulez. Ah, j'ai des idées, mais enfin bon, vous en faites ce que vous voulez, hein, de toute façon. Eh oui. Il a trouvé la joie et la paix, c'est le texte qui nous dit, et non la réprobation et le rejet. Alors, de quel pain nourrissons-nous nos enfants? De quel pain les nourrissons-nous? Alors, on est dans un monde, il faut tenir compte aussi de tout ce qui se passe autour de nous. Il y a des choses qui sont foncièrement mauvaises, bon ça on le connaît, on va pas rentrer dans les détails. Mais il y a des choses où nos enfants ont besoin aussi de vivre. On n'est pas là pour les mettre entre quatre murs. Hein. Il faut qu'ils vivent. Parce que si on les met de côté et là on les met sous une cloche, vous allez voir qu'ils seront inadaptés à la vie sociale et à la vie avec en communauté avec les autres. Hein. Ça c'est clair. Hein. On le sait très bien. On n'a pas à les marginaliser, nos enfants. Hein. Donc, de quel pain les nourrissons-nous? Quel exemple de vie ont-ils devant nous? Ou avons-nous devant eux, plutôt? Eh bien, si on leur donne simplement, et que l'on fait un sujet de prière, et que l'on dise qu'il y a un exemple parfait, c'est l'exemple du Père, qui restera toujours faillible, c'est vrai, faillible et quelquefois précaire, hein, il faut bien le reconnaître. Mais si cet homme, si ce Père terrestre, si cette Mère terrestre, si ses parents terrestres, trouvent leurs ressources et l'inspiration auprès de l'exemple céleste parfait, alors à ce moment-là, il y aura quelque chose qui va se passer. Dans l'amour, dans la paix, dans les fruits de l'esprit. Et c'est pourquoi on peut conclure simplement par cette parole du livre des Proverbes, encore le livre des Proverbes, ou plutôt Ecclésiaste, mais c'est un proverbe quand même. Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Le Seigneur bénit nos couples, il bénit nos familles, et il faut jeter notre pain, le pain de la parole, le pain de l'amour de Dieu et de ce que Dieu nous aime et aime nos enfants, de l'éducation dans la vérité, et puis tout ce que nous avons dit ce matin, je ne vais pas rappeler, on va pas recommencer, mais une chose qui est certaine, si on donne ce pain-là, eh bien, il nous est dit cette promesse, avec le temps, tu le retrouveras. Tu en feras des hommes, des femmes, tu en feras des couples, tu en feras des parents plus tard, qui véritablement, eh bien, aimeront Dieu, et qui seront sel et lumière du monde. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, je te rends grâce, nous te rendons grâce ensemble, parce que nous croyons qu'il y a tellement de belles choses dans ta parole. Alors nous pouvons, c'est vrai, faire de la doctrine, ça c'est certain, et elle a sa raison d'être. Mais nous voulons croire que Jésus enseignait avec des images, avec des choses, Père éternel, et ses disciples également, des choses qui parlent, parce que ce sont des choses pratiques. Ce n'est pas, Père éternel, eh bien, là, de la rhétorique ou de la théorie, mais nous le savons bien tous, parce que nous sommes impliqués devant des questions, des problèmes à résoudre. Des situations, Seigneur, qui nous empêchent parfois de dormir, qui nous troublent. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux te dire simplement une parole et m'associant avec mes frères. Seigneur, donne-moi de rester près de toi, et toi près de nous, près de notre vie, près de notre couple, près de nos enfants, de notre famille, près de nos frères et sœurs pour que nous puissions bien nous entendre et nous aider les uns les autres, non pas avec des jugements à n'importe pièce, mais avec véritablement des mots d'amour et d'encouragement. Au nom de Jésus, amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.